7h sur Radio Orient. Bonsoir à tous. Le journal en langue française, Loïc Barrière. Les hôpitaux saturés dans plusieurs villes de France en raison de la canicule, notamment à Paris. La ministre de la Santé anticipe des décès supplémentaires dans les jours qui viennent. Entretien dans ce journal avec Christophe Prudhomme, ancien médecin urgentiste et conseiller régional d'Île-de-France. Il estime que les enseignements de la canicule de 2003 n'ont pas été tirés. Au-delà de la France, c'est toute l'Europe qui suffoque. Une vague de chaleur qui s'étend à l'est du continent et entraîne l'annulation de plusieurs événements. Hôpitaux sous tension, mortalité en hausse, annulation d'événements culturels et sportifs malgré la baisse progressive des températures qui s'annonce. Les deux tiers de la France restent écrasés aujourd'hui par une canicule d'ampleur exceptionnelle. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, dit s'attendre à des décès dans les jours qui viennent liés à la canicule. Il y a des craintes notamment au sujet de décès à domicile sur l'ensemble du territoire. Le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, Philippe Juvin, décrit une situation extrêmement grave. Le médecin, par ailleurs député LR, évoque notamment des personnes sans domicile fixe qui arrivent avec 42 degrés de température. Au moins 55 personnes se sont noyées depuis le 18 juin. Et puis un bébé de 18 mois retrouvé dans une voiture est décédé aux urgences de Marseille. 50 départements resteront en vigilance rouge samedi en France. C'est l'une des conséquences de cette canicule. Les services d'urgence commencent à être saturés en France. Les autorités redoutent à plus ou moins court terme une surmortalité dans la population. Une partie de la classe politique estime que les enseignements de la canicule de 2003 n'ont pas été tirés, à l'image de l'ex-médecin urgentiste conseiller régional LFI en Île-de-France, conseiller de Paris Christophe Prudhomme.
L'hôpital est en situation de tension majeure, avec un risque d'effondrement, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore le pic des hospitalisations qui risque de survenir en début de semaine prochaine, parce qu'on a toujours un effet retardé, hein, avec un épuisement des organismes et des personnes les plus fragiles. Or aujourd'hui, nous n'avons plus de lits d'hospitalisation. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'à force de mettre l'hôpital sous tension, en diminuant le nombre de lits, en fermant des hôpitaux, en ayant un problème d'attractivité des personnels qui fait qu'on n'arrive même pas à ouvrir les lits autorisés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'assistance publique, qui a fermé quand même 10 000 lits depuis les années 90, n'est pas en capacité d'ouvrir la totalité des 20 000 lits qui restent. Il y en a 10% qui sont fermés par manque de personnel. Donc voilà, donc vous savez, gouverner, c'est prévoir. Depuis 2003, hormis le fait qu'on ait fait quelques efforts dans les EHPAD et sur la surveillance des personnes âgées à risque, c'est les municipalités qui s'en occupent, on n'a pas adapté notre système de santé, on n'a pas adapté nos écoles, on n'a pas adapté nos hôpitaux. Et aujourd'hui, il va falloir mettre un réel coup d'accélérateur. On ne peut pas continuer à hospitaliser les gens dans des chambres où il fait 35 degrés, ce qui est le cas aujourd'hui.
Sur le très court terme, qu'est-ce que vous demandez ?
Pour des mesures d'urgence qui nécessitent qu'on se dote de matériel, qu'on fasse les travaux d'urgence, des occultants, des films anti-UV, du matériel de rafraîchissement. On est dans une situation aujourd'hui où malheureusement, on n'est plus en capacité de produire ce matériel, on est dépendant d'importations, en particulier de Chine. C'est comme sur les masques. Si aujourd'hui on veut faire un effort massif sur des appareils de rafraîchissement, on voit bien qu'il y a des ruptures de stock. Alors que on sait que les périodes de canicule, on en aura de plus en plus et tous les étés il fait chaud. Voilà, donc cette impréparation. Parce que, vous voyez, si on a mis en place un vrai plan en 2003, nous sommes 22 ans, 23 ans après. On aurait pu faire beaucoup de choses en 23 ans. Qu'on a encore des hôpitaux où on hospitalise des patients dans des zones, dans des chambres où il fait 35 degrés, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est une impréparation.
Le conseiller régional LFI en Île-de-France, conseiller de Paris, Christophe Prudhomme, il répondait à François-Xavier de Calonne. La France n'est pas la seule touchée par cette vague de chaleur. L'Europe dans son ensemble atteint des records inédits. On écoute Clara Dubanché.
Si en France, les journées les plus chaudes jamais enregistrées sont derrière nous, 150 millions d'Européens vivent aujourd'hui une journée suffocante à plus de 35 degrés. En effet, la vague de chaleur s'étend vers l'est du continent, des pays du Nord, aux Balkans. Par exemple, 39 degrés en Serbie, en Macédoine du Nord ou encore en Bosnie. De nombreux pays européens se dirigent eux aussi vers des nouveaux records de température. C'est le cas au nord de la France, pour les Pays-Bas. L'alerte rouge est déclenchée pour la première fois dans le pays et la plupart des écoles sont fermées. Idem en Suisse, qui bat des records de chaleur pour le mois de juin avec 38 degrés, une première depuis 1947. Les Britanniques vivent un record historique d'intervention pour des urgences vitales. Comme en France, les hôpitaux sont saturés et des cellules de crise sont activées. 20 millions de personnes ont été concernées par la canicule en Espagne avec au moins 212 décès en seulement 4 jours, deux fois plus que l'année dernière. Et quant à l'Allemagne, eh bien le pays vit en ce moment son pic de chaleur. Des records absolus sont battus et de nombreuses régions du pays sont en situation de stress thermique sévère, selon le service météorologique allemand. Canicule oblige, tout comme en France, plusieurs événements sportifs et culturels en plein air sont annulés.
Merci Clara Dubanche. En raison des très fortes températures prévues samedi à Paris, la marche des fiertés prévue demain à Paris est reportée. Quant au festival Solidays qui était prévu ce week-end, il est annulé. Par ailleurs, à Paris, la consommation d'alcool dans la rue et les espaces publics est interdite. Les recherches pour retrouver des survivants s'intensifient au Venezuela, où l'aide internationale commence à arriver. Le bilan des deux séismes il y a deux jours a atteint 589 morts. Des équipes de sauvetage venues d'au moins 17 pays sont en cours de déploiement au Venezuela. Les agences de l'ONU et d'autres ONG appellent à la solidarité internationale. L'armée israélienne affirme avoir tué 7 membres du Hezbollah au Liban. Selon Israël, les miliciens transportaient des armes à proximité de la zone occupée par l'armée israélienne dans le sud du Liban. C'est un rendez-vous annuel attendu et cela démarre demain samedi, la 32e édition du Maghreb des Livres, un salon littéraire consacré à la littérature maghrébine et méditerranéenne. Cela se déroule à l'Hôtel de Ville à Paris et c'est gratuit. Un événement organisé par l'association Coup de Soleil. Les lettres tunisiennes sont cette année mises à l'honneur. Un programme riche tout au long du week-end. Rencontres avec des auteurs, dédicaces, débats, cafés littéraires ou encore table ronde. Un rendez-vous incontournable et aussi un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Un événement en partenariat avec Radio Orient. Thibaut Richard s'est entretenu avec Anis Kellou, chargée de mission culturelle pour l'association Coup de Soleil.
Le Maghreb des Livres est un festival littéraire qui a été créé en 1994. Le but, justement, est de regrouper toutes les littératures du Maghreb, ou plutôt de France liées au Maghreb. C'est pour pouvoir montrer à tout le monde cette littérature, leur faire découvrir la littérature maghrébine ou franco-maghrébine, justement dans un but qui rejoint les valeurs de l'association Coup de Soleil qui a été créée en 1985 par Georges Morin et plusieurs dizaines d'amis qui justement eux étaient originaires du Maghreb. Et le but c'est de lutter positivement, de manière positive, contre les discriminations et les racismes qui touchent malheureusement beaucoup de populations d'origine maghrébine.
Quelle place la littérature maghrébine occupe-t-elle aujourd'hui dans le paysage littéraire français ?
Il y a beaucoup d'auteurs maghrébins ou d'origine maghrébine qui écrivent surtout en langue française et qui se sont appropriés cette langue et qui en font des merveilles. Je pense à Yasmina Kadra, je pense à deux jeunes plumes aussi, comme la jeune journaliste Aïda Amara ou Nathir Al-Mouadam ou dernièrement aussi le doyen de l'université PSL qui fait un magnifique livre aussi, Monsieur Al-Mouhoub Mouhoud, qui parle justement de son parcours d'Algérie jusqu'en France et qui parle justement de cette double identité franco-maghrébine. Et la place de la littérature maghrébine, est, je pense, est très importante parce qu'encore une fois, les Français d'origine maghrébine aussi apportent leur lot à cette culture française et l'enrichissent dans la production littéraire francophone.
Anis Kellou, chargée de mission culturelle pour l'association Coup de Soleil, le Maghreb des livres, c'est demain et dimanche en partenariat avec Radio Orient et c'est à l'hôtel de ville de Paris. Enfin, ce soir, les Bleus disputent leur troisième et dernier match de groupe de la Coupe du Monde 2026 face à la Norvège, une rencontre qui se fera sans leur sélectionneur Didier Deschamps. Les précisions avec vous, Salma Dakhlaoui.
Oui Loïc, effectivement Didier Deschamps ne sera pas sur le banc ce soir. Le sélectionneur est absent en raison du décès de sa mère. Les obsèques ont lieu aujourd'hui et c'est son adjoint Guy Stéphane qui dirigera les Bleus face à la Norvège. Sur le plan sportif, après deux victoires convaincantes contre le Sénégal où les Bleus se sont imposés 3-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé, puis un succès éclatant 3-0 face à l'Irak où le capitaine des Bleus a récidivé avec un nouveau doublé lui permettant ainsi de s'emparer de la deuxième place au classement des meilleur buteur de ce mondial 2026. D'ailleurs, au coude à coude avec le cyborg Erling Haaland et le Brésilien Vinicius Junior, les hommes de Didier Deschamps sont déjà qualifiés pour les 16e de finale. Mais l'enjeu reste de taille, terminer premier du groupe I afin de s'offrir un tirage plus favorable pour la suite de la compétition. En face, la Norvège abordera ce dernier match de groupe sans pression liée à la qualification, qui elle est déjà acquise après ses succès contre l'Irak et le Sénégal. Les Scandinaves joueront toutefois la première place du groupe face aux Bleus. Malgré la modestie côté norvégien, les Bleus savent qu'ils devront se méfier d'une sélection norvégienne qui aura à cœur de terminer en tête du groupe. Et si vous voulez vivre cette affiche dans une ambiance de stade, rendez-vous ce soir à partir de 19h30 à l'Adidas Arena. Une watch party gratuite et ouverte à tous est organisée avec retransmission du match sur écran géant et animation. Coup d'envoi à 21h, une belle occasion de soutenir les Bleus avant le début de cette rencontre France-Norvège.
Merci Salma Dakhlaoui. C'est la fin de ce journal. Merci à Anis à la technique. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.